Donc, c'est vraiment un plaisir qu'on puisse se voir encore en ce début de saison, qui sera quand même une année de transition à bien des niveaux. Comme vous savez, je suis rendu à l'université, vous avez prié fort. Vous avez prié peut-être trop fort. Hein? Oui, puis en plus, je suis rendu haut dans la tour, c'est ça. Mais c'est ça. Donc, pour moi, c'est une transition. Ça fait drôle quand même de se retrouver là où je suis cette année. Mais déjà, après 3 semaines, je vois l'intérêt et je vois le bienfait peut-être d'avoir un instrument comme celui qu'on a présentement à l'université. Après avoir parlé avec des gens en Europe, en Afrique, ici au Québec, le besoin pour les études que je mène et des domaines dans lesquels je travaille, ça s'annonce une aventure vraiment fort intéressante. Donc, et en fait, c'est un accomplissement de notre communauté, et il ne faut pas l'oublier. Hein, c'est nous qui se sont ralliés, on a travaillé fort pour être capable d'y arriver. Et en fait, moi, je suis prêté à l'université, mais j'appartiens à la communauté chrétienne des Deux-Rives. Donc, je suis très heureux de pouvoir faire ça. Et c'est la première présence protestante dans le corps professoral de l'université en 350 ans d'enseignement de théologie au Québec, dont on fêtera la semaine prochaine la fête mercredi. On sera à l'hôtel de ville, M. Labeaume nous reçoit, et c'est un honneur que de pouvoir être là. Et surtout dans le cadre du 500e anniversaire de la réforme protestante. Donc tout ça quand même, si on parle d'alignement de planète, si l'alignement de planète existe... C'est quand même un phénomène intéressant. Donc, c'est vraiment agréable de pouvoir faire ça, de pouvoir être là. Vous savez que je suis un passionné de mission. Vous avez vu des mots passer ce matin. Et ça va me permettre d'introduire un peu ce vers quoi on va se diriger cette année. Parce qu'il y aura aussi transition dans le sens de... nous existons depuis quand même 1990. Hein, on a commencé la première implantation d'église à Lévis. Après ça, nous sommes, Richard et moi, sommes déménagés sur la Rive-Sud. Entre-temps, nous avons travaillé à Montmagny pendant 2 ans et on a implanté une église ici sur la Rive-Nord. On a essayé d'en faire une à Val-Bélair, on a essayé d'en faire une dans Mont-Patelin. Donc, on a essayé de travailler, de constituer des communautés chrétiennes sur les valeurs dont tantôt je vais vous parler. Mais une passion a toujours été là pour nous, c'est ce concept de la mission. Claude et moi, nous sommes... officiellement des implanteurs d'églises, hein, c'est ça qu'on a fait. Et paradoxalement, je crois qu'on n'a jamais parlé du sujet dans la communauté, de la mission. Et lorsque j'étais en train de réfléchir à ça pendant l'été, je me disais, je ne pense pas qu'on a déjà fait même une série, qu'on a déjà parlé de tout ça. Fait que je me dis, bien, peut-être ce serait le temps, non pas parce que je suis en poste dans le domaine, certains pourraient faire une association, mais ce serait une fausse association, mais parce que je crois aussi que à l'intérieur de ce concept-là, il y a des choses à réfléchir cette année sur ce que nous sommes et sur ce que nous voulons devenir. Et des fois, des mots, des concepts qui ne sont pas posés par les textes des Écritures nous aident à prendre ou à saisir l'identité que Dieu nous a donnée. Et en fait, cette année, c'est vers ce chemin-là que nous voulons vous emmener, dans une réflexion profonde, je pense comme on ne l'a jamais fait, sur cette question de quelle est la place de CCDR dans ce grand panorama que nous avons vu ce matin. Merci encore à Sylvie. C'était quand même, hein, on est parti de chez nous, ici après-midi, pour se rendre jusque dans les limites imaginaires du cosmos, pour essayer d'identifier Dieu dans tout ça. Donc, en fait, on est non seulement petit, mais on est très, très petit quand on se regarde devant tout ce plan-là. Mais qu'est-ce qu'on fait ici? Pourquoi est-ce qu'on existe? Et quelle est la part que nous avons dans ce grand plan que Dieu a? Donc, on n'a jamais parlé de ça, et je me suis dit, ça serait peut-être une bonne chose. Parce que je crois que cette année, nous allons, en abordant ce sujet, c'est souvent, je parle entre nous ou aux anciens, on va faire un quart de tour. C'est comme si nous prenions ce que nous étions, et on ne va pas faire une révolution, mais on va ajouter un élément de définition de ce que nous sommes, qui va peut-être nous aider à aller un petit peu plus loin dans ce que nous pensons qu'est l'appel de notre communauté à nous. Donc, c'est vers là que je vais essayer de vous diriger tranquillement. Mais pour ça, je voulais quand même, je ne suis pas sûr que ça va bien marcher, je voulais quand même commencer par un petit quiz, si vous permettez. Donc, c'est la rentrée scolaire. Donc, on devrait, en principe, on devrait être capable, on devrait se mettre dans l'ambiance. Je pèse sur HDMI. Ça devrait être correct? OK. Parce que je ne le vois pas là. Ah, il est en arrière. Excusez-moi, je vais essayer de me joindre à vous. Petit quiz. Donc, à vos crayons. Je vais essayer de m'installer ici. Première question. Est-ce que la mission concerne toute la Bible? Je ne vais pas répondre à la question, mais réfléchissez un petit peu à ça. Est-ce que la mission, ça concerne toute la Bible? Pourquoi Dieu s'est fait connaître à Israël? Pourquoi Dieu s'est fait connaître à Israël? C'est quand même pas banal. Pourquoi Dieu s'est-il intéressé au salut des nations dans l'Ancien Testament? Il aurait pu se contenter des Juifs, puis il y en avait pas mal les mains pleines avec les Juifs. Mais pourquoi est-ce qu'il s'est intéressé au salut des nations dans l'Ancien Testament? Quels sont les fondements bibliques fondateurs de la mission? Matthieu 28, Acte 1-8, ou peut-être d'autres passages que vous avez en tête. Y a-t-il des implications pour l'Église du fait que nous soyons des descendants d'Abraham? Je ne sais pas si vous avez remarqué dans votre Nouveau Testament, mais cette histoire-là d'Abraham et le lien qu'il y a avec l'Église, ça revient de temps en temps. Et pourquoi ce lien-là, il est créé? Parce que quand même, Abraham, on dit que c'est le père de tous les croyants. Il y a sûrement une association à faire avec ça. La rédemption est-elle au cœur de la mission ou est-elle la seule chose au cœur de la mission? Et là, quand j'entends rédemption, c'est un terme biblique que vous avez lu dans votre Nouveau Testament, que vous avez lu dans l'Ancien Testament. Donc, est-ce que la rédemption résume tout ce qu'on pourrait greffer au terme mission? Quel est le lien entre restauration et mission? Parce que ce matin, on a regardé ensemble, lorsqu'on parle de la restauration, que Dieu va restaurer, que Christ est venu pour restaurer toute chose, qu'est-ce que ça veut dire, cette affaire-là, en lien avec la mission? La mission doit-elle caractériser toute la vie de l'Église ou est-ce tout simplement une activité au même type que les autres activités? C'est un petit quiz, là. C'est pour vous mettre les neurones en méchant quiz. Hein? Est-ce que la mission est l'affaire de l'Église ou est-ce que la mission pourrait être l'affaire de Dieu? Ça aussi, c'est quand même des bonnes questions. Et je crois que ça, c'est la dernière. La mission concerne-t-elle le salut des individus ou le salut des nations? Donc, c'est sûr que peut-être que vous êtes déjà quelqu'un d'intéressé à la mission, vous êtes averti des questions. Mais il y a des questions dans ça qui nous surprennent, parce que lorsqu'on les propose au texte des Écritures, on peut avoir des réponses qui sont un peu différentes de ce que nous avons conçu jusqu'à présent. Donc, cette année, avec une équipe d'enseignants, enfin, ce que je viens de vous énoncer comme question, c'est exactement la série que nous allons poursuivre, où on partagera l'enseignement. Mario, moi, je fais l'introduction. Jean-Yves va se joindre à nous aussi cette année. Marc Grétier, qui n'est pas ici ce matin, Daniel était ici, va aussi se joindre à nous. Pour enfin, on va répondre à chacune de ces questions, ou du moins, peut-être pas y répondre, mais au moins se lancer dans une réflexion à partir de chacune de ces questions-là. Donc, on essaiera de regarder, d'un point de vue biblique, les différentes facettes que l'on retrouve pour essayer d'arriver à une conception de la mission. Mais on ne veut pas faire un exercice juste de réflexion. Je veux qu'on puisse le concevoir comme étant quelque chose qui est en lien directement avec notre identité. Claude et moi, on est ce que l'on est comme implanteur d'Église, non pas parce qu'on était payé pour. Oui, c'est vrai qu'on était payé pour. Mais c'est aussi quelque chose qui est dans notre ADN, je dirais. Si on avait eu le choix de faire ce qu'on aurait voulu faire, avec toute la liberté, c'est probablement ce qu'on aurait fait. Parce que pour nous, ce n'était pas une carrière que l'on cherchait, mais c'est parce qu'on croyait que Dieu a infusé de façon quelconque. Ce n'est pas parce qu'on a des esprits faciles ou plus intelligents. On est peut-être parmi les plus difficiles, mais Dieu, des fois, choisit des drôles de moineaux pour être capable de travailler avec lui. Et c'est devenu pour nous une passion. C'est devenu pour nous l'idée de voir que Dieu nous a généreusement graciés, que Dieu nous a donné la foi, de vouloir le partager avec les autres, les inviter à rentrer dans cette communion hein, grande qui est l'Église, qui est historique depuis Abraham. C'est toujours ce qui nous a passionnés. C'est toujours ce qu'on a voulu être, c'est toujours ce qu'on a voulu honorer, de la façon dont on a bien pu le faire, parfois maladroitement, parfois avec des bons gestes, mais c'est ce qu'on a essayé de faire. Et on a essayé aussi dans nos différentes relations avec vous, dans les interactions, d'essayer de vous transmettre ça aussi. Hein, ce goût de voir plus grand, ce goût de vouloir atteindre les gens. Certains m'ont dit, des fois, on est tanné d'entendre parler du mot « culture », puis on est en train de tanner un peu d'entendre parler du Québec, puis, mais ce n'était pas pour faire de la philosophie, toutes ces affaires-là. C'est assez pour essayer de nous situer, savoir nous où est-ce qu'on est aujourd'hui. Pourquoi nous existons comme communauté? Qu'est-ce qu'on fait en 2017 au beau milieu d'un paquet d'églises qui existent à travers une société qui a grandement besoin d'églises? Et qu'est-ce que nous autres on fait? Donc, pour être capable de mieux se situer, je pense que c'est important de regarder tout ça et de valider qu'est-ce que l'on est. Parce qu'il y a des défis qui sont super intéressants devant nous, mais on a besoin d'y travailler. Donc, on essaie de faire, en quelque sorte, de la mission quelque chose qui fait partie de la nature fondamentale de CCDR. On essaie de travailler à faire ça. Et en partie, lorsque je regarde, il y a bien des choses pour lesquelles nous pouvons être fiers. Nous avons d'abord travaillé à créer une communauté qui puisse être capable de créer des relations qui sont saines. Nous avons créé une communauté avec un sens de communauté, d'authenticité, de proximité. Nous avons travaillé aussi à essayer de faire des liens avec les générations suivantes. On a développé le sens de la famille, le respect des différences. On a développé l'hospitalité, qui pour nous n'était pas juste des bienfaits pour notre propre culture à nous d'Église. Parce que c'était aussi des moyens qu'on peut transposer facilement envers les gens qui sont alentour et qui ont aussi besoin de ça. Si on se définit comme communauté, c'est parce que je crois que dans une société où la solitude existe tellement, que lorsque des gens sont capables d'articuler qu'ils font partie d'une communauté, pour moi, il y a une puissance de l'Évangile dans ça. C'est ce qu'on essaie de vous transmettre. Donc, c'était le but en arrière de tout ça. C'était jamais juste pour nous-mêmes qu'on essayait d'accorder hein, nos violons pour être capable de développer, en quelque sorte, ces sonorités, ces sensibilités, parce qu'on voulait qu'elles résonnent à l'extérieur aussi. C'est facile pour l'Église de se contenter d'être ce qu'elle est pour son propre bénéfice. Je pense que dans l'Ancien Testament, on a des gens qui pensaient comme ça aussi. Dans le Nouveau Testament, on a eu des gens aussi qui pensaient comme ça. Hein? Parce que vous savez, l'Évangile a été déposé parmi les Juifs. Hein? Et qu'est-ce que les Juifs, quelle sorte de tentation qu'ils ont eue? De vouloir faire en sorte que toute l'Église soit juive, qu'elle ait des couleurs juives. Et ça a pris un moyen travail de Dieu pour dire, « Écoute, mon petit Pierre, c'est pas comme ça que ça va se passer. Hein? Moi, j'ai un plan pour les autres et ils n'ont pas besoin d'être juifs. Ils n'ont pas besoin d'être comme toi. Ils peuvent avoir la même foi que toi, avoir accès aux mêmes dons, aux mêmes grâces, mais ils vont l'avoir de manière différente. Ils vont l'expérimenter de manière différente. Ils vont le concevoir de manière différente. » Mon petit Pierre, calme-toi. Hein? J'ai un plan qui est beaucoup plus grand. Et dans tout ça, il va y avoir des noirs, des blancs, des jaunes, des rouges, des bleus. Ça, c'est quand on se met en colère. Il va en avoir de toutes les sortes. Hein? Puis tous ces gens-là vont former une seule et grande communauté. Donc, mon petit Pierre, fais-toi-en pas. Ça va sortir du judaïsme et ça va devenir quelque chose d'autre. Et aujourd'hui, bien, on en est des héritiers de ce quelque chose d'autre. Et je peux être très content aussi du fait que nous avons laissé des traces lorsque nous regardons notre cheminement comme communauté. Lorsque je pense à l'espace public, ou je pense à vos voisins, ou je pense à différentes entreprises, de choses qu'on a menées, je suis très content de ce qu'on a fait, de ce qu'on a fait ensemble, de voir que la plupart d'entre vous êtes aussi impliqués dans des organismes communautaires, que vous servez différentes causes. Pour moi, ça, c'est une grande gratification. Je pense à notre fête de Noël, à notre capacité d'accueillir les gens, d'accueillir la différence. Je pense au cœur Alléluia qu'on a créé aussi et qui va revenir, hein, on va dire un peu plus tard qu'on va revenir à Noël aussi, mais toute la diversité qui existe dans ce cœur-là et tous les gens qui sont là et avec qui on peut avoir de bonnes relations, avec qui on peut parler des choses qui sont vraiment sérieuses, profondes. Nos participations au débat public, hein, Pierre et moi, on aime ça, les débats publics. Hein, on a participé à 2 commissions parlementaires. Je suis content qu'on ait fait ça. On a fait des conférences, des grandes conférences à l'université. On a participé à différentes activités, comme du recyclage d'ordinateurs. Hein. On avait un programme pas ordinaire à Lévis. On recyclait des ordinateurs pour pouvoir donner à des gens qui étaient pauvres, qui ne pouvaient pas en avoir. Je suis content qu'on ait fait ça. Formons des jeunes solides. La participation au Café Mosaïque, le projet de la chaire, pour moi, qui est un projet missionnaire en soi. Je me dis, on a quand même, avec nos petits moyens, on a réalisé de grandes choses. Et je me dis, on a été capable de garder un certain équilibre entre nos besoins et les besoins des autres. Et Dieu sait que dans une église, c'est difficile à administrer ça. C'est difficile à gérer parce que l'attention existe toujours. On peut se demander qu'est-ce qu'on fait au Congo, hein, parce qu'on travaille aussi au Congo. On peut se demander qu'est-ce qu'on fait en Haïti, parce qu'on travaille aussi en Haïti. Pourquoi est-ce qu'on ne concentre pas toutes nos énergies à travailler ici? Hein, cette semaine, on va avoir des rencontres avec des gens sur des réserves autochtones. Pourquoi on s'intéresse à ces gens-là? Donc, pour moi, il s'agit, oui, de garder les choses en tension, en ce qui sont nos besoins, mais aussi ce que sont les besoins des autres. Et dans quelle mesure CCDR peut profiter de ce qu'elle est, mais dans quelle mesure CCDR peut aussi donner et être sensible aux besoins des autres. Parce qu'en fait, la Bible nous dit qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Donc, on devrait être caractérisé comme étant des gens généreux. Et dans le passé, on le fait. Et je crois que dans le futur, on va continuer à le faire. Mais tout ce qu'on veut, c'est donner une petite dimension supplémentaire à tout ça pour être capable de tout bien cibler. Et à ce moment-là, on va commencer à utiliser un mot cette année qu'on va vous proposer, qui est celui d'une église missionnelle. Missionnelle, ça a l'air bizarre comme mot, puis c'est vrai, c'est bizarre aussi, parce que ce n'est pas un mot qui existe dans le lexique. Mais on va essayer de s'imaginer que par nature, l'Église, elle a été créée pour le bien-être des nations. C'est ça veut dire, en gros, une église missionnelle. Ça veut dire qu'elle n'existe pas pour ses propres fins, mais qu'elle existe pour la fin des autres. Jésus a pas mal fait la même affaire. Donc, nous, on va essayer de ne pas être différents. Et on va essayer de se définir, de réfléchir à la place que la mission a. Et est-ce que ça ne pourrait pas être dans notre nature aussi, de se concevoir de cette façon-là? Et ça peut changer certaines affaires. Même dans notre façon de réfléchir sur des thèmes comme celui, par exemple, et on va en parler cette année, de la sainteté. Vous êtes-vous déjà posé la question pourquoi on est saint? À part le fait que vous pouvez lutter avec le fait que vous attribuez le fait que vous soyez saint, parce qu'en fait, on n'est pas parfait. Là. Non, on lutte tout avec ça. Mais pourquoi Dieu nous a appelés saints? On pourrait penser que c'est parce qu'il a voulu nous bonifier d'une nature qui est surnaturelle pour qu'on puisse ensemble se réjouir du fait que nous sommes des saints. Et puis souvent, ce qui arrive, on fait une espèce de distorsion avec tout ça, parce que là, on commence à se regarder les uns les autres, à savoir lequel est le plus saint et lequel est le moins saint. Puis on commence à jouer des jeux. Hein? Vous avez déjà vu ça, hein? Puis là, on crée toutes sortes de petites affaires. Mais quand on pense à ça pour le fun, pourquoi est-ce que Dieu s'est fait un peuple et que ce peuple-là est saint? Ne serait-ce pas pour représenter Dieu au sein des nations? Un caractère dont on ne mérite pas. Mais si nous sommes saints, c'est parce qu'il y a quelque chose de distinct à l'intérieur de l'Église, mais qui n'est pas faite pour elle-même, qui est faite pour son rayonnement. Parce que comment les hommes sauront-ils que Dieu est 3 fois saint? Dieu, celui qui l'a décidé, ce n'est pas moi, il nous a choisis pour ça. Comme nous donner, nous infuser son caractère pour qu'il puisse transparaître autour et que des gens puissent savoir que ce concept de sainteté, de perfection dans l'amour, dans le sacrifice, dans la générosité, puisse exister. Que ce ne soit pas un concept philosophique, mais que ce soit une réalité incarnée sur la terre. Et Dieu a voulu qu'on soit saint. Autre question, pourquoi est-ce que nous adorons? Hein, est-ce que nous adorons dans le sens que le plaisir que nous avons, c'est de venir ensemble et en communauté de foi, nous célébrons Dieu et nous adorons? Pourquoi l'adoration existe? Avez-vous déjà posé la question? Hein? Pourquoi on adore? En fait, ce que l'on fait cet après-midi, et c'est comme ça, ça a toujours été conçu, c'est que c'est une proclamation publique que nous sommes en train de faire. C'est-à-dire que samedi après-midi, dimanche après-midi, un groupe de gens arrête leurs activités pour venir ensemble et adorer leur Dieu. Dans l'histoire de l'humanité, beaucoup de croyants sont morts pour faire ce que l'on fait aujourd'hui. Et l'adoration, ce n'était pas quelque chose pour eux, dans le sens qu'on va embellir nos cultes et on pourrait même compétitionner à la limite. Mais c'était parce que les gens venaient ensemble, en dépit des circonstances extérieures, pour communiquer aux nations qu'il y avait un peuple qui adorait le seul vrai Dieu. Et quand on pense à l'adoration, c'est une façon, ou c'est quelque chose qui est en nous, qui est incarné, qui fait en sorte que l'Église rayonne. Donc, à ce moment-là, quand on commence à réfléchir sur l'adoration ou des catégories comme la société, la sainteté, on est capable de penser autrement. Et ça, je trouve ça intéressant. Donc, cette année, vous allez avoir à penser à ces choses-là. Donc, je n'ai pas besoin d'être d'accord en partant. Vous pouvez avoir des avis très contraires. Dans nos églises maison, on va aborder toutes sortes de questions. Mais on veut que vous rentriez avec nous dans cette réflexion. Parce que, comme j'ai dit, il ne s'agit pas de définir des nouvelles activités que l'on veut insérer. Il ne s'agit pas de dire qu'on veut intégrer des nouveaux budgets. C'est juste de dire, on pense, nous les anciens, que ça fait partie de notre ADN, de ce que l'Église est fondamentalement comprise d'une manière dont l'Écriture, semble-t-il, nous la présente. Et lorsqu'on dit, bien, j'aimerais, on va regarder quelques passages bibliques rapidement quand même ensemble, et puis des fois, bien, j'escamote les textes bibliques juste parce que le temps est limité, là, c'est pas parce qu'on donne moins d'importance. Mais juste pour poser la question, en fait, la mission, c'est l'affaire de qui? C'est l'affaire de qui? Chérie, tu as une réponse? Ah, est-ce qu'elle était bien enseignée, était bien formée? Vous n'avez pas compris, hein? Ah, tu devrais dire le plus fort. Tu t'es arrangé avec le gars des vies, c'est ça. Elle dit, c'est l'affaire de Dieu. Regardez, quelqu'un peut me lire Matthieu 16, 18. Et la question, c'est de savoir, c'est qui bâtit l'Église? Est-ce que c'est les pasteurs? Est-ce que c'est les apôtres? Est-ce que c'est les prophètes? Est-ce que c'est les évangélistes? Les docteurs? C'est qui bâtit l'Église? Matthieu 16, 18. Quelqu'un peut me lire? Si vous l'avez, levez-vous, lisez-le fort pour que tout le monde puisse l'entendre. L'éclairage est suffisant, je crois. Êtes-vous capable de lire dans... Quelqu'un là? Qu'est-ce qu'il dit? Jésus a dit, je bâtirai mon Église. Hein? C'est qui bâtit l'Église? Il y a plusieurs intervenants. Il y a plusieurs besogneux, hein, il y en a plusieurs qui sont mêlés à l'entreprise. Mais c'est qui bâtit son Église? C'est le « je » de Matthieu 16, 18. Et Jésus a dit à ses disciples, c'est moi qui vais bâtir mon Église. Vous autres, vous êtes envoyés, mais c'est moi qui bâtis mon Église. Acte 2, 47. Ça, c'est un beau passage. Tout le monde, je pense que tout le monde devrait le connaître par cœur, Acte 2, 47. Premier qui est là, nous lisons. Hey, mais vous n'êtes pas rapide, ça gâchette, mais bien. Ils louaient
Dieu et ils étaient estimés par tout le monde. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à leur groupe ceux qui l'amenaient au salut.
Et qu'est-ce qu'il dit? Et le Seigneur ajoutait à chaque jour. C'est pas le génie de Pierre ou le génie de Paul qui faisait en sorte que les gens s'ajoutaient. C'est pas les techniques qu'ils déployaient. C'est pas le savoir-faire, quoi qu'il y en avait un. Mais ce qu'on nous dit, et Dieu ajoutait à chaque jour. Est-ce que c'est la même chose qu'on pourrait penser au 21e siècle? Mais ça serait difficile de croire le contraire. Quand Jésus a dit dans Matthieu, je bâtirai mon Église, bien, il y a probablement lieu de croire que cette affaire-là qui est appelée l'Église, avec toute sa diversité et toute sa complexité, est une entreprise que nous ne menons pas. Donc, si vous aviez l'impression que vous étiez en train de mener une entreprise, bien, vous allez être déçu, parce qu'on nous dit, « Je bâtirai mon Église. » Et c'est Dieu qui ajoute à l'Église. 1 Corinthiens 3, 4 à 9. Quelqu'un peut me dire ça avec une voix forte. Faut que je check mon temps. 1 Corinthiens 3, 4 à 9. Donc, nous sommes quoi? Nous sommes des arroseurs. Hein? Nous, on entretient des choses. Mais c'est qui fait pousser? C'est qui fait croître? C'est Dieu qui assume tout ça. Donc, ce n'est pas de notre ressort, ce n'est pas de notre travail. Oui, nous sommes des laboureurs. Oui, on est engagé dans quelque chose, mais ce n'est pas nécessairement le fruit de notre travail directement qui donne des conséquences, parce que des fois, on travaille. On a essayé d'implanter, hein, François, tu t'en souviens, on a essayé d'implanter une église à Montmagny. Ce n'est pas qu'on n'a pas voulu. Hein. On a essayé d'implanter une église à Valbalaise. On a déployé des efforts, on a déployé des budgets pour faire ça. Dans mon coin, on a essayé de faire de quoi aussi. Mais finalement, c'est qui on est, nous autres? Là. Hein? On est des arroseurs. On plante des affaires. Mais c'est qui fait croître? C'est Dieu. C'est comme ça qu'on a besoin de le voir. Mais encore là, ce que je veux qu'on souligne, ce n'est pas le travail ou le labeur de ceux qui participent, mais c'est le fait que Dieu lui-même semble être le chef d'entreprise de ces affaires-là. Et c'est pour ça que cette année, on va vous amener à considérer un passage important qui est Genèse 12, 1 à 3, qu'on a lu ce matin, mais j'aimerais qu'on, ou partiellement, qu'on, oui, je crois qu'on l'a lu, j'aimerais qu'on puisse le relire, s'il vous plaît. Genèse 12, 1 à 3, parce que tout d'un coup, c'est comme si on était capable un peu de situer la mission, puisqu'on vient de dire que pas mal c'est Dieu qui est en charge de la mission, et que la mission, à ce moment-là, ne commence pas juste avec les paroles de Jésus. Est-ce qu'on peut retrouver ce même sens dans l'Ancien Testament? Et là, lorsqu'on retourne en arrière, qu'on recule et qu'on recule et qu'on recule assez loin, on découvre ce texte de Genèse 12 qui s'ouvre à nous comme une porte pour comprendre un peu comment tout ça s'est passé à travers les siècles, comment cette mission ou cette histoire de Dieu s'est passée. Quelqu'un peut lire Genèse 12, 1 à 3.
Le Seigneur dit à Abraham, « Quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père, et va dans le pays que je te montrerai. Je ferai naître de toi une grande nation. Je te bénirai et je rendrai ton nom célèbre. Tu seras une bénédiction pour les autres. Je bénirai ceux qui te béniront, mais je maudirai ceux qui te maudiront. À travers toi, je bénirai toutes les nations de la terre. »
Ah, ça, c'est un passage intéressant. S'il y avait des Juifs ici, on aurait un vilain plaisir à travailler là-dessus. Parce que les Juifs disent quoi? Hein, les Juifs que Jésus parlait, parce qu'on ne sait pas ce que les Juifs disent partout, mais quand Jésus parlait aux Juifs, qu'est-ce qu'ils disaient toujours à Jésus? Quittez-toi. Hein? Nous, on est des fils d'Abraham. Toi, tu viens d'un moyen coin reculé, puis ce n'est pas toi qui vas venir nous enseigner qui on est ou nous dire ce qu'on n'est pas. Parce que nous, on est des fils d'Abraham. Qu'est-ce qu'ils ont oublié dans le passage de Genèse 12? Qu'est-ce qu'ils ont oublié? Je bénirai. Je ferai de toi. Le « je » du Genèse 12, 1 à 3, c'est tout d'un coup comme si il était passé inaperçu. C'est comme s'il avait disparu. Et là, tout d'un coup, Israël a pensé à croire, a commencé à croire qu'eux autres, ils étaient la somme du plan de Dieu. Hein? Parce qu'on est fils d'Abraham et que tout le reste, bien, c'était des gens qu'il ne fallait pas trop fréquenter parce que c'était des gens de mauvaise vie. Un peu ce que l'Église aussi, parfois, peut facilement penser. Mais qu'est-ce qu'ils n'ont pas lu dans Genèse 12, 1 à 3? Ce n'était pas d'être fils ou non d'Abraham. c'était que Dieu a dit, « Je bénirai les nations. » Et Abraham, Israël a toujours lutté avec ça. Je ne sais pas si vous vous souvenez d'un personnage qui s'appelle Jonas. Hein, ça vous dit quelque chose, ça, Jonas? Hein? Jonas dans la baleine, hein? Hein? Donc, il n'était pas vraiment intéressé au jeu de Dieu comme au fait qu'il était un fils d'Abraham. Et puis, il n'avait surtout pas envie de le partager avec les autres. Hein? C'est comme si c'est un peu contraire, hein, au sens de l'hospitalité. Hein? Jonas s'est dit, il n'est pas question que moi j'aille à Ninive, c'est une gang de ci et de ça, et quel serait mon intérêt d'aller, sans dire qu'en fait, il avait peur pour sa propre vie, parce que c'est vrai qu'il avait raison de le faire, mais il voulait vraiment escamoter le jeu de Genèse 12, 1 à 3. Et littéralement, il l'a fait parce qu'il s'est embarqué sur un bateau pour aller plus loin. Puis après toutes ces histoires que vous connaissez bien, Dieu va dire à Jonas, quand il est en train de déprimer, va dire à Jonas, je peux-tu te poser une question? Hein? Pourquoi tu t'en fais autant pour ce petit arbre-là que je viens de te faire pousser qui t'empêche de faire brûler le coco? Pourquoi tu te mets en peine de ça parce que je l'ai fait sécher? Pourquoi moi, je ne me mettrais pas en peine de toute une nation? Pourquoi moi, je n'interviendrais pas et que je ne leur permettrais pas d'avoir la même grâce que toi, tu as eue? Et là, s'il y a un livre dans l'Ancien Testament que les Juifs n'aiment pas, c'est bien celui de Jonas. Hein? Parce qu'il est venu contrecarrer les plans. Il est pensant que, eux, toute cette bénédiction, ce miel, hein, qu'on avait annoncé avant d'entrer en Canaan, leur était essentiellement réservé juste pour eux. Mais Dieu dit, non, hein, je te donne une belle table, mais cette table-là est en vue de quoi? D'inviter tous les autres, toutes les autres nations, à bénéficier de cette table-là. Et les Juifs ont eu de la misère à comprendre. Mais ça leur a coûté cher. Quand on regarde dans l'Ancien Testament, Israël a vécu dans le pays d'Israël depuis l'appel d'Abraham, 700 ans. Et pendant 700 ans, ils ont été hors de leur territoire. Et quand on dit à un enfant, tu sais, il faut que tu marches, puis on le pousse, c'est un peu ce qui est arrivé. D'abord, ils se sont ramassés en Égypte. Hein? Donc, on pensait, nous autres, qu'on rentrait en Canaan, puis qu'on piquait nos tentes, qu'on s'installait, oups, d'un coup, ils ont fait un détour en Égypte. Et qu'est-ce qu'on lit à la fin de l'histoire de l'Exode? On nous dit, on n'aura pas le temps de lire, Exode 12, 38, il apparaît, on nous dit, « Et une multitude de nations se joignirent à Israël quand ils sortirent d'Égypte. » Est-ce que Dieu voulait se mettre en peine de Pharaon, de cette grande dynastie? C'est sûr qu'il le voulait. Est-ce que nos amis auraient compris que c'était ça que Dieu voulait? Probablement pas. Mais ce qui est arrivé, ils ont passé 400 ans en esclavage et Dieu s'est révélé. Et le mot qui est utilisé, Dieu s'est fait connaître à Pharaon. Et le mot connaître, c'est-à-dire un mot qui signifie qu'on est dans une communion mutuelle, les uns et les autres. Et c'est ce mot-là qui revient toujours dans l'Ancien Testament. Dieu se fait connaître, Dieu veut se faire connaître aux nations. Lisez les psaumes, vous allez voir, c'est rempli de tout ça. On a d'autres exemples, par exemple, où naturellement, on joue au jeu de la sainteté, puis finalement, qu'est-ce qu'on fait? On se fait prendre par nos propres règles, et tout d'un coup, on est dans l'idolâtrie, tout d'un coup, on est dans des débordements excessifs, puis Dieu est obligé de se fâcher, comme un père le ferait, et finalement, il les envoie tous à Babylone, du moins une partie, parce que tout le reste, une grande partie va mourir à Babylone. Quelques-uns resteront là, et là, c'est une grande désolation pour Israël. Le temple est détruit, ils ont perdu tous les symboles, les grands symboles de leur grand royaume qu'ils avaient. Mais Dieu n'était pas en peine dans ces affaires-là. Parce qu'on s'aperçoit, lorsqu'on regarde dans Daniel 4, 31-34, qu'est-ce qui est arrivé? Nebuchadnezzar n'était pas le moindre des personnes à convaincre. Mais Dieu s'est pris d'une certaine façon où, à la fin, qu'est-ce qui arrive avec Nebuchadnezzar? Après avoir brouté de l'herbe, il y a quasiment un psaume dans le passage 31 à 34, où Nebuchadnezzar va exalter l'Éternel. Un roi entièrement païen, on dit à l'époque l'une des plus belles villes au monde, encore considéré les jardins de Babylone comme étant parmi les plus grandes merveilles du monde, de ce qu'on peut imaginer. Et Dieu s'est révélé à Babylone. Qu'est-ce qui est arrivé quand Néhémie a voulu retourner chez lui? Quand il est allé voir le roi, les Mèdes et les Perses, il dit, écoute, ça fait longtemps qu'on est ici. Puis Dieu m'a dit qu'il faut retourner chez nous. Et qu'est-ce qu'on fait avec ça? Parce qu'il était quand même un peu intelligent de parler au roi avant de commencer à partir. Il aurait peut-être eu des problèmes à la douane, mais il a décidé de parler au roi. Et qu'est-ce que le roi a fait? Inimaginable. Je ne sais pas si vous avez vu le film, je ne me souviens pas le titre du film, mais qui parle du roi Artaxerxès, qui était un des rois les plus cruels qui a pu exister. J'imagine que ce n'est pas sans tremblement. Et tu vois dans les paroles de ce roi qui honore le Dieu de Néhémie. Fait que tu dis, en fait, Israël n'était pas bien content, mais quand tu regardes tout l'Ancien Testament, bien au-delà des intentions d'Israël, l'Ancien Testament est une histoire des conversions des nations au Dieu d'Israël. Donc, Israël a été un instrument. Ils n'ont pas bien vu, des fois ils l'ont mal vu, mais Israël a été un instrument. Et je vous invite cette année à essayer de lire l'Ancien Testament de cette manière-là. Et ça donne une toute autre dimension. Puis tu vois que les privilèges qu'Israël avait, c'était pas pour eux. C'était pas pour qu'ils s'auto-gratifient par rapport aux autres. C'était pas pour qu'ils s'élèvent et qu'ils se mettent meilleurs que les autres. C'était pas pour entrer en compétition. En fait, ils devaient être des serviteurs, comme on a chanté aujourd'hui, envoyés parmi les nations pour faire rayonner, en quelque sorte, le Dieu qu'ils adoraient. C'était ça leur job. C'était ça qu'ils devaient faire, sans enlever tous les privilèges qu'ils avaient, sans enlever toute la jouissance de l'abondance et de tout ce qu'on peut avoir. L'intention première était que Israël puisse briller auprès des nations. Et qu'est-ce qu'on a vu dans les textes de ce matin? Bien, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, on a beau lutter contre ça, à la fin, dans l'Apocalypse, qu'est-ce qu'on retrouve? C'est lui qui gagne. Oui, c'est ça. Ça, c'est une façon, ça se décrit. Mais qu'est-ce qu'on voit? On dit des peuples de toute langue, de toute nation. À la fin, d'un couvert à l'autre, Genèse 12 nous trace un grand panorama jusqu'à l'Apocalypse où, inévitablement, Dieu est intéressé aux nations. Oui, Dieu s'intéresse au salut individuel des gens, mais Dieu veut se faire connaître aux nations. Dieu a une vue pas mal plus large que ce que nous, on peut avoir. Donc, c'est dans ce genre de réflexion que cette année, on aimerait être capable de vous amener. Là, j'ai des trucs qui sont là, mais je vais passer rapidement. Je vais juste aller. Voici une façon dont nous allons vous proposer de définir ou de se définir. CCDR, nous sommes une communauté envoyée. J'aimerais qu'on puisse se voir comme ça. Les anciens, on aimerait qu'on puisse se voir comme ça. Notre appel est de participer à la mission de Dieu envers toutes les nations. Donc, dans notre petitesse, quand même, on a des ramifications un peu partout. Moi, je trouve ça vraiment fascinant. Mais quand on est allumé ou quand on voit ce plan-là que Dieu met à exécution, c'est encore plus excitant de voir qu'avec un petit groupe, Dieu est capable de faire des choses qui sont vraiment merveilleuses. Dans le but de manifester au monde le royaume de Dieu, on aurait pu mettre présent et avenir, parce que l'humanité se prépare à rencontrer son roi. Hein, c'est ça. Et l'histoire est une préparation de cette rencontre-là. Il est important de travailler au progrès de l'Évangile pour ça et à la plantation d'Église, parce qu'on a besoin que le peuple de Dieu se multiplie. Le peuple de Dieu, en se multipliant, bien, devient, on a plus d'agents qui vont annoncer exactement ce dont on est en train de parler. Nous voulons nous voir comme une Église interculturelle, interethnique et intergénérationnelle, passionnée par la mission de Dieu. C'est ça qu'on veut voir. L'avancement de son royaume, fondé dans sa communion avec Dieu et ses relations communautaires matures, manifestées par une présence fidèle dans l'Église universelle de Dieu et parmi les nations. Donc, c'est les grandes déclarations, là, mais cette année, on va vous mettre ça sur la table, on va couper ça morceau par morceau, on va essayer de le digérer. J'espère que personne ne fera pas d'indigestion, mais on va essayer de vous emmener dans ça. Et pour nous, c'est important parce qu'on est à un carrefour. Donc, en 2005, on a travaillé sur un plan où on a réalisé beaucoup de choses. Je l'ai repassé hier en tête, hier au soir, c'était vraiment intéressant. Mais aussi, on est devant des défis. Et vous n'êtes pas sans savoir, l'année passée est une année de transition, c'était une année difficile aussi. Des gens sont partis et ça n'a pas été nécessairement facile de voir tout ça. Donc, et en même temps qu'on travaillait sur la façon de s'imaginer, de se projeter dans le futur, basé sur des compréhensions ou des interpellations de ces textes-là bibliques. Et je me dis, bien, c'était difficile, c'était discordant. Mais nous voulons quand même cette année ensemble qu'on puisse réfléchir là-dessus, qu'on puisse passer du temps en église maison, qu'on puisse dans nos grands rassemblements. On va vous ramener différents thèmes pendant toute l'année, en espérant que nous serons capables de se concevoir comme étant une église envoyée et avec plein de choses à déterminer, mais que nous soyons tous et chacun disposés, engagés et prêts à faire l'effort que ça prend. Parce que nous sommes des laboureurs, nous sommes des arroseurs. Hein? Donc ça, c'est notre travail à nous et qu'on puisse le faire joyeusement. Encore pour, on est en train de planifier les 10 prochaines années. Donc, et comme on voit, ce n'est pas toujours dans le grand nombre que les choses s'accomplissent. Et je pense souvent et je prie souvent en pensant à Daniel, le prophète Daniel. Parce que ceux qui sont partis à Babylone n'étaient pas si nombreux que ça. Parce qu'on nous dit qu'ils ont pris les plus jeunes et les plus intelligents. Mais je regarde ce que Daniel, son témoignage, sa parole, sa détermination, ce qu'il a fait à Babylone. Il a emmené le roi de la terre à l'époque à se prosterner devant Dieu. Que, qui sait qu'est-ce qui peut arriver à travers un petit groupe, une petite communauté? Donc, c'est ça que je voudrais qu'on puisse réfléchir cette année ensemble.